L'âge bête sur RCN.
Il est 14h sur RCN, ravi de vous retrouver pour l'âge bête. Bonjour l'équipe.
Salut.
Bonjour.
Une bien belle équipe et puis avec un petit nouveau, hein, parce qu'il a pris 2 semaines de vacances de plus, il arrive qu'aujourd'hui. C'est Justin, comment tu vas?
Bah très bien et toi?
Nickel. Donc avec toi, donc, tu nous feras cette année le quiz de culture générale. Je préviens tout de suite, c'est très costaud aujourd'hui et on va bien galérer.
Bah en plus on est que deux à y répondre donc ça va
oui,
vraiment
bah,
être super.
Oui, parce que Naïm est pas là, peut-être qu'il nous écoute depuis chez lui.
J'espère.
Bon, Bisous à lui, qui n'est pas là aujourd'hui. On parlera histoire évidemment avec toi, Clément. En un mot, on parle de quoi globalement?
Globalement, à parler histoire, franchement, là, pour trouver un lien, c'est compliqué.
D'accord. Et puis, j'assure, c'est vraiment du teasing, c'est formidable. On en parle dans un instant et puis à la fin de l'émission, on aura ta chronique pop culture. Jasmine, tu nous parles de quoi aujourd'hui?
Tout à fait, aujourd'hui j'aborde un monstre de l'entreprise du jeu vidéo, la saga The Legend of Zelda.
Voilà, et puis ben, on en parlera donc tout à l'heure pour conclure cette émission et puis on fera toujours une petite citation. Bienvenue sur RCN dans l'âge bête, nous sommes ensemble jusqu'à 14h30.
RCN, l'âge bête.
Allez, on parle histoire avec toi, Clément, pour que débuter cette émission.
Et on va commencer tout de suite. Est-ce que vous savez,
c'est après quel siège Vercingétorix a rendu les armes aux pieds de Jules César? Est-ce que vous le savez, ça? Après quel siège de qui?
C'était Alésia? Non.
Oui,
si.
Voilà, c'est
ah,
ça.
Si. Je pensais pas que quelqu'un pourrait...
Si, tu vois, là. Ouais. Donc, vous le savez sûrement, hein, mais je vais quand même le redire. Jules César, c'est le meneur de l'État romain en 52 avant Jésus-Christ. Et sa volonté d'agrandir son territoire va le mener en Gaule, où, afin de contrer ses projets, les Celtes et les Gaulois vont s'unir, notamment en confiant le commandement des opérations à Vercingétorix. Donc les Celtes, ils gagnent par exemple à Gergovie, ce qui va obliger César à reculer vers le sud. Et après une défaite au nord de la Bourgogne, les Celtes, qui étaient à peu près 80 000, comme l'explique Jules César dans son livre La guerre des Gaules, eh bien ces Celtes, ils se réfugient dans l'oppidum d'Alésia et ils sont rapidement encerclés par les Romains. Dans un premier temps, les vieillards et les malades sont exclus du village et soit sont massacrés par les Romains, soit meurent de faim ou de maladie. Ensuite, eh bien, des secours vont apparaître, mais disparaître aussi rapidement parce qu'ils vont avoir peur de tous les Romains qui sont au nombre de 45 000 à peu près, selon toujours Jules César.
Oui, parce que
dans
coup,
la guerre
ça,
des
c'est uniquement selon les dires de Jules César.
C'est ça. Donc les secours partent et Vercingétorix ben, va se résigner à se rendre hein, pour épargner quelques vies, les quelques vies qu'il peut encore épargner après avoir jeté tous les vieux et les malades dehors. Et donc
c'est charmant,
César bien, compte le moment où Vercingétorix jette ses armes aux pieds sur le cheval. Je ne sais pas si vous voyez un peu le tableau peut-être.
Alors le tableau pas du tout, je
si,
sais même pas.
Si, je crois que je vois à peu près, j'ai déjà vu. Ouais.
Avec son cheval blanc.
Le cheval blanc, ouais.
J'ai dû le voir en CM2 du coup. Bon.
Oh, ouais, il y a des chances.
Et donc, on voit le niveau de cette émission, c'est-à-dire qu'on est en dessous du CM2.
Voilà, et donc bien cette scène, au risque de vous décevoir, elle est sans doute jamais arrivée. Puisque c'est sans doute Jules César qui l'a inventé pour rendre sa victoire encore plus belle, comme le disait Martin, puisque la guerre des Gaules, c'est le livre de Jules César, mais c'est pas l'histoire, la vérité absolue. C'est d'un point de vue subjectif.
Mmh. Et du coup, il n'y a aucun autre témoignage pour confirmer ça, genre?
Non.
D'accord.
Voilà.
D'accord, donc on se base uniquement sur ce que nous dit Jules César.
À peu près.
Oh, d'accord, ok.
Bon, on va changer, donc maintenant on va parler du château fort de Sedan. Est-ce que vous connaissez sa particularité à ce château fort?
Bon là, je crois que c'est compliqué.
Tu nous as perdu, je pense.
Non, je vous ai perdu là.
Mais je sais même pas où c'est. Genre,
Sedan, c'est près de la Meuse. C'est dans les... Vous êtes dans les Ardennes ou...
Alors, ce qui est génial, c'est que Clément et l'histoire, oui, mais Clément et la géographie, non. Non, ça ne va pas.
Bon,
donc oui, Sedan.
Je vais me répondre à moi-même, hein,
oui,
du coup. Sedan, c'est le château de Sedan, c'est le plus grand château fort d'Europe, en fait. Et il a été élu cette année monument préféré des Français. Donc voilà.
Pas mal.
Donc ce château fort, il est construit...
Des Français de Sedan, hein, pas des Français tout court.
Oui.
Je pense.
Non, bah non, c'est l'émission de Stéphane Bern qui l'a récompensé, du coup.
Ils ont vu leur château, ils ont tous voté pour.
Ils ont tous voté pour.
Donc ce château, il est construit à partir de 1424 par Évrard II de la Marque Arambert, qui en fait un château fort. Il le construit en forme de triangle autour d'une église. Donc en fait, ça fait quand même un petit, une petite place forte du village. Mmh. Et au fur et à mesure des propriétaires, le château il va s'agrandir. Je vais pas rentrer trop dans les détails, mais au final, bien les remparts, ils vont résister aux tentatives de Charles Quint ou encore de Henri IV pour la France. Henri IV, alors c'est celui qui s'est fait assassiner dans son carrosse. Je sais pas si ça vous parle.
Oui, bah Henri IV, oui.
Oui, ça va quand même. On voit qui est Henri IV.
D'accord. Je teste, hein.
Oui, oui, non, mais c'est sûr, teste.
Donc,
teste.
Ensuite, la construction du château fort, elle est pensée pour résister au siège. Hein. Vauban, il va bien aimer ce château fort, il va pas faire beaucoup de modifications d'ailleurs. Il va juste y rajouter une porte.
Ouais, parce qu'il n'y a pas de porte avant,
super
modification. Il ne rentrait pas dedans.
non, mais en gros, c'est une porte pour rentrer dans l'enceinte du château.
Ah oui, c'est plus pratique.
Dans l'enceinte basse. Et il va devenir important dans l'histoire du Second Empire, ce château. Puisque c'est là-bas que Napoléon III bien, a fait hisser le drapeau blanc en 1878, donc pendant la guerre contre la Prusse. Et puis pendant la Première Guerre mondiale, il sert de camp d'internement aux Allemands. Et donc plus d'un millier de personnes vont mourir là-bas, donc dans le château. C'est très sympathique.
Oui. C'est vraiment super, en tout cas, comme
anecdote.
Aujourd'hui,
bien, le château il recouvre 35 000 mètres carrés, ce qui en fait bien le plus grand château médiéval d'Europe. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il a été élu cette année monument préféré des Français, donc pour succéder à la place Stanislas.
Ah oui, c'est vrai, tiens.
C'est honteux.
Enfin, voyons.
Franchement, ouais.
Ah oui, non, là, franchement, bravo Sedan.
Voilà.
Je suis dépité.
Je suis abasourdi.
Et troisième anecdote, troisième histoire, bien, c'est la création de la bicyclette. Alors, c'est quelque chose qui me tient à cœur quand même, le vélo.
Un petit peu.
Et est-ce que vous savez, c'est quoi le surnom de la bicyclette, du vélo? Non, vous ne savez pas.
Bah non.
Pas là, comme ça.
C'est la petite reine.
Ah ouais, non, là, j'y étais vraiment pas. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres surnoms.
Le vélo, c'est la petite reine.
D'accord.
Et pourquoi, du coup?
Faudrait rechercher, je n'ai pas de tête comme ça.
Ah, c'est pas mal.
Mais... du coup, bien, voilà. Martin, si tu peux rechercher tout de suite pourquoi.
Ah oui, je vais regarder ça si tu veux pour la
et
suite.
Et donc, l'ancêtre du vélo, il a été inventé en 1817 par Karl von Dreis, donc un Allemand. C'était un baron. Et à ce moment-là, bien, c'est juste deux roues avec un cadre, tout en bois, les roues aussi en bois. Et on pourrait donc plus parler de draisienne, mais c'est réellement l'ancêtre du vélo.
Pédale. Oui, c'est vrai, c'est... Ouais.
Voilà, on avançait avec la force des jambes.
Oui.
Et on tournait, c'était
on tournait
plutôt
pas.
Moyen. Et donc le vélo avec des pédales, lui, il apparaît dans les années 1860, c'est quand même très tôt.
C'est
quand
tôt.
Même. Avec la famille Michaud qui le commercialise. Alors il y a vraiment beaucoup de controverses sur qui l'a produit, qui l'a fabriqué, qui l'a inventé. Mais en tout cas, c'est la famille là qui le commercialise. Et donc, le vélo gagne rapidement en succès, bien grâce aux pneumatiques et aux freins. C'est quand même pas mal d'avoir des freins.
D'avoir
sur
des freins, oui, c'est pas mal. C'est comme le château voilà. Avoir une porte. Alors, Tars, tu veux tout de suite savoir d'où ça vient, la petite reine. C'est assez intéressant. Donc, l'impression, en fait, serait attribuable en partie à la néerlandaise. C'est une reine. Je vais pas prononcer son nom parce que d'Orange Nassau, voilà, qui est devenue reine à l'âge de 10 ans. Et donc, elle aurait été l'une des premières à avoir utilisé le vélo. Donc, dans sa ville.
Oui, voilà, elle a dû le rendre populaire, du coup.
Bah voilà. Ah oui, non, mais je fais aussi...
tu mets suite. Et donc, le vélo, il va ensuite devenir un objet de loisir, mais aussi un utilitaire pour les ouvriers, pour donc se rendre sur le lieu de l'usine, sur aller faire ses courses, etc. Et il va voir sa pratique augmenter, notamment pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est pendant cette Première Guerre mondiale, bien que le terme vélo va commencer à être utilisé. Avant, on parlait de bicyclette, on parlait... Avec de biclous, enfin on parlait...
Oui, de biclous, mais j'avais pensé à ça comme surnom aussi.
Mots,
mais
voilà. Ouais. Et puis, avec la Deuxième Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, eh bien, où l'usage des voitures est totalement restreint, pardon, eh bien, le vélo, il devient un bon outil pour les résistants aussi. Et une fois n'est pas coutume, je vais finir par une question. Est-ce que vous savez quand a eu lieu le premier Tour de France?
Bah oui, alors c'est 1900.
Oui.
Hein, c'est 1900.
Oui, va continuer ton raisonnement.
1903.
Oui, bah
non,
oui.
C'est ça.
Oh.
Ouais,
1903 non, mais... et le vainqueur peut-être.
Il est chaud, il est chaud.
Oh non, le vainqueur, quand même pas. Non, mais c'est un Français évidemment.
En fait, Maurice Gars. Martin.
Maurice Garin qui a gagné le premier Tour de France
en 1903. Que j'ai dû lire
mais alors peut-être que ça, on pourra peut-être en reparler plus vers en fin de saison.
Du Tour de France.
Ouais, pourquoi pas.
Bah allez, pourquoi pas.
Histoire du Tour de France.
Voilà, bon moi je te le rappellerai parce que je pense que sinon d'ici là t'auras oublié. On parlera de l'histoire peut-être du Tour de France. Merci Clément de nous avoir fait découvrir à la fois le château de Sedan, donc qui a piqué quand même la place
à la place Stanislas. Ouais. Hein, c'est, quand même. C'est grave.
Oui, ouais, ouais. Bon, avec toi Jasmine, on parlera donc dans quelques instants de Zelda, de toute son histoire et de son évolution. Mais juste avant, dans trois petites minutes, on fera notre grand quiz de culture générale. C'est dans trois petites minutes juste le temps de s'échauffer un petit peu le cerveau. Run away, right now, let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold on to me. Oh, there's something I gotta say to you.
RCN.
En direct jusqu'à 14h30 sur RCN, vous êtes bien dans l'âge bête, on a parlé histoire dans un instant on parle de Zelda, mais pour l'heure c'est l'heure de faire notre grand quiz de culture générale avec toi Justin pour ta première. Alors j'ai vu les questions, parce que du coup voilà, c'est sa première.
Parce qu'il triche en gros.
Ouais c'est ça, en fait voilà.
Tout de suite.
Vu le niveau de l'émission, il faut bien relever un petit peu le niveau. Donc si je n'ai pas les réponses sous les yeux, on n'avancera pas quoi. Là on en a pour une demi-heure je pense pour le quiz. Non mais voilà, le niveau est compliqué, c'est quoi les thématiques?
Il y a l'automobile, il y a un peu la radio et il y a un peu d'histoire.
Voilà.
Autant dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge.
Et que Clément est avantagé, si je dois
tout
donner
tout
mon avis.
Suite,
hein.
C'est vrai. Eh bien vas-y Justin, c'est parti pour la première question.
Eh bien la première question, on va parler de F1 et je vais vous demander qui a remporté le plus de championnats du monde de Formule 1.
Est-ce que c'est un mec qui roule actuellement?
Ouais.
C'est Max Verstappen?
Non. Non.
Ouais, je sais pas.
C'est vrai, ça aurait pu.
Ouais,
de F1, bah je sais pas.
Ah je suis nul en F1, ne me regardez pas.
Je sais pas, Charles Leclerc ou...
Non, il n'y en a pas.
Ah il n'est pas si excellent que ça Charles Leclerc.
Ah c'est pas Lewis Hamilton peut-être?
Si, c'est ça.
Ah,
il est chaud.
Une fois que je m'y connais en F1.
Bon. Bah, on va encore être sur de l'automobile. Hein.
Ouais.
Quelle ville allemande est associée à BMW?
Francfort?
Non.
Düsseldorf?
Non.
On verra toutes les villes du monde.
La capitale?
Est associée à Mercedes-Benz.
Berlin?
Non.
Bah,
ça commence par un S?
Avec un S, une ville allemande.
Avec un T,
c'est une grande ville qu'on connaît bien.
Strasbourg, c'est en France.
ST.
Je connais vraiment aucune ville allemande.
STUTT.
Alors voilà, voilà.
C'est difficile, la ville, et après on lui redit. C'est bon, on a gagné.
Ouais, je vous dis la ville et vous me le redites.
Un poil plus simple. Quelle est la technologie sans fil pour la radio et la télévision?
Les ondes.
Oui, mais comment on appelle cette technologie?
Bah, je sais pas moi. Des ondes radiophoniques, radio.
T'y es presque.
Radio.
C'est une technologie, donc c'est pas le nom des ondes, mais.
La radiophonie.
Non, ça c'est le principe de faire de la radio, la radiophonie.
Oui, mais le principe de diffuser, enfin, je sais pas.
Bah, franchement.
Merci pour cette.
Avec ce que tu viens de dire, t'as vraiment presque les réponses, quoi. Genre, tu prends juste deux mots dans ce que tu viens de dire.
La radiographie.
Non.
La radiodiffusion.
Bravo Jasmine.
Non, mais il fallait mettre le mot diffusion.
Réfléchir dans le truc.
Parfois, il y a quand même des questions. Faut pas chercher midi à 14h. Hein, voilà. Même s'il est 14h15. Wow. Oui, non, mais.
Bien dit ça, Martin. Voilà,
le niveau de l'émission.
Faut pas chercher.
Peut-être que j'aimerais qu'on enchaîne avec la prochaine fois.
Ouais.
Allez, quel constructeur automobile originaire du Japon est souvent cité comme l'étant le plus puissant?
Toyota.
Bien joué Clément, tu as la réponse.
Bon, bah voilà, ouais. Ça c'est fait. Non mais il est reparti comme l'an dernier. C'est... Allez,
alors,
quatrième question.
Un peu compliqué, cinquième question. Un peu compliqué.
Ah, je sais pas compter. Suivre Martin.
Comptez jusqu'à 5.
En quelle année a été breveté le moteur explosion?
Le moteur explosion, dans les années 1890.
Un peu avant.
1886.
Un tout petit peu avant.
1885.
Bravo Jasmine. Jasmine, elle a vraiment
non, mais ça, non,
et là,
mais...
tu mets un point.
Oui, mais faut pas abuser. Désolé, un nombre.
Et celui de la radiodiffusion, Martin, tu m'enlèves les points.
Oui, tu l'as pas
dit. Preuve, oh, excusez-moi. Preuve que vous êtes vraiment misogyne.
J'aurais pu mettre une marge là quand même d'un an, je sais pas.
Mais alors, je tiens à dire quand même que les dates, on en avait déjà parlé en fin d'année dernière, les dates et Clément, c'est pareil, c'est comme la géographie, c'est très difficile.
Non, mais là, Martin, c'était un truc au pif, je suis arrivé à un an près.
Et maintenant, qui l'a inventé?
Ah,
c'est une question un peu bonus.
C'est peut-être Citroën ou un truc comme ça.
Non, non. Enfin, c'est plus une marque qui existe, mais c'est une marque qui a existé pendant un moment.
Ah, monsieur, alors une marque qui a disparu.
Enfin, qui a été fusionnée avec Mercedes-Benz. Enfin, ça s'appelait pas encore Mercedes-Benz, mais.
Bah, du coup, monsieur Benz.
C'était Daimler-Benz, et c'est monsieur Daimler qui va.
Ah, et donc ensuite, ça vient de le moteur explosion. D'accord.
Donc lui, il a fait le moteur, puis sa marque a
disparu. En tout cas, on est trop fort, je
crois. Mais le niveau a augmenté depuis la semaine dernière et il y a deux semaines.
Encore l'automobile. Qui a produit la célèbre Model T en 1908?
Le Model T de Renault?
Alors, c'est un. Non, pas de Renault, mais c'est une des premières voitures à être produite en série. Enfin, c'est la première voiture à être produite en série. Et son inventeur, c'est le pionnier de la production en série, en gros.
C'est peut-être de l'allemand plus la voiture?
Non.
Du français?
Non.
Bon, bah c'est les japonais.
C'est sur le modèle américain.
Américain,
non,
enfin,
Ford,
les américains.
Encore, c'est Ford, effectivement, comme
purée,
tu viens de dire.
Purée, mais il fait
gagner. C'est
Henry Ford.
Mets-moi un point. Hein.
Oui. Bon,
il surveille.
Non, et hop, hop.
Ou pardon. Quel événement majeur a eu lieu en 1989 en Allemagne?
La chute du mur de Berlin.
Voilà, Clément.
Ah, c'était la question facile. Ça, je savais.
Et je l'ai.
Ça allait faire.
Encore une date. Quel événement majeur a touché l'automobile en 1973?
1973, l'apparition du moteur électrique?
Non.
Moteur électrique. Ça aurait été bien utile à ce moment-là.
Les premières voitures ont eu un moteur électrique, enfin ont été électriques, sauf qu'on a abandonné la technologie très vite, car c'était pas encore assez puissant.
Je sais pas, 1973, alors, une révolution dans l'industrie de l'automobile.
Un événement majeur, c'est pas une révolution.
C'est pas directement, en fait, c'est pas le monde de l'automobile qui l'a créé. C'est, disons que c'est un phénomène. Un phénomène extérieur qui a conduit.
On a commencé à se poser pas mal de questions dessus d'ailleurs.
Ouais.
Un événement majeur.
Ouais, indice, c'est.
La ceinture de sécurité?
Non, c'est un événement vraiment. Tout le monde a été touché et il y a eu une.
C'était une.
Ça a même touché, par exemple,
ça a touché
tout le secteur des transports.
Oui, bah, c'est une crise ou un truc du style.
Bon, on va donner la réponse.
C'était la crise pétrolière.
Ah oui, d'accord.
Là, ça touche tout le monde. Une grosse pénurie à cause de. Bah, les Américains, ils aimaient bien consommer. C'est des voitures qui consomment énormément et forcément, au bout d'un moment, il n'y en a plus. Et
du coup, ça fait la pénurie, quoi.
Et du coup, bah, c'était vraiment le début des enjeux écologiques. Quelle marque a fait le premier téléphone portable?
Nokia.
En
C'est ah, le premier téléphone portable.
En 1983.
83.
Ouais.
Oula. Bah,
attends, c'était avant 3310 parce que ça c'est Nokia du coup.
C'est bien avant, ça ressemblait plus à une brique qu'un téléphone.
Oui, c'était un énorme truc super long
Très peu portatif d'ailleurs.
Oui, clairement. mais bon, il était considéré comme téléphone portable quand même. C'est une marque qui est très peu, enfin qui est beaucoup moins connue aujourd'hui,
mais qui est encore, enfin en
c'est
dans le marché.
Quelle nationalité?
Oui, encore dans le marché aujourd'hui.
Quelle nationalité?
Un truc, genre.
Je ne sais plus.
J'en sais rien. On va donner la réponse parce qu'on est un peu à la
c'est Motorola.
Ah oui, Motorola, bah oui, c'est super connu.
Oui, bah oui,
DynaTAC, quand même, le DynaTAC 8000X.
Ah, déjà, c'était un nom. Ouais, la référence. Aussi long que le téléphone, quoi.
Allez, la dernière question.
Et dans quelle ville a été diffusée la première radio, émission de radio?
À Londres.
Non, c'était en 1920.
De 1920 à Paris.
Non, c'était
ça, c'est après. Tu vas dire toutes les capitales.
La diffusion
ou...
de Tour Eiffel, c'est après, je sais plus.
C'était en Europe?
Non, je ne crois pas.
Ah, d'accord.
Je crois que c'est en 24
à
en
New
France.
York. Parfois.
C'était une ville américaine.
Ah.
C'est aussi... le nom de la ville. Mais
on va vérifier le
nom de la ville.
Ah, c'est pas évident.
Columbus.
Non, c'est une ville qui n'est pas super connue.
Ah, qui n'est pas super connue.
Qui se trouve Columbus en Pennsylvanie.
Ah.
Alors, les villes de Pennsylvanie, est-ce qu'il y en a aussi qui... On va aller plus vite. Qui connaît une ville en Pennsylvanie?
Moi, je connais pas de...
Bon, allez, hop, on va donner la réponse.
C'est la ville de Pittsburgh, avec l'émission...
Je connais Pittsburgh, du coup, mais je savais pas que c'était en Pennsylvanie.
Qui a été diffusée en 1920 à Pittsburgh, qui est la première diffusée régulière.
Et donc, ça fait maintenant 123 ans. Ça fait déjà
ça fait
un petit bout de chemin. Ouais.
Et maintenant, il y a...
C'est plus vieux que moi.
Et maintenant, vous avez vu quand même la décalage.
Sans deck.
L'amélioration, je voudrais dire.
C'est clair.
Entre 1920 et aujourd'hui.
Bah oui, il y a nous maintenant déjà.
Ah ouais, formidable. Bon allez, dans un instant, on va parler de Zelda pour terminer cette émission, qu'on aura une petite citation. Tout ça, c'est dans un instant sur RCN, il est 14h22. Bienvenue.
Started a job, she's feeling it out. And for once, it feels right. She's feeling like the prime of her life. But all of that is just a dream, shattered now. And everything's changed with one car and one night. It's driving through the prime of your life. Taking me in, but where was I? Well, he took his life. Well, I was singing in the prime of my life.
RCN, l'âge bête.
Il est 14h quasiment 25 sur RCN et pour terminer cette émission, on va parler pop culture avec toi Jasmine et on parle du fameux jeu vidéo Zelda.
Oui, tout à fait. Donc, il a été créé par Shigeru Miyamoto, qui est également le créateur de...
Mario,
tout à fait, et Pikmin aussi, mais c'est aussi moins connu. Donc, le premier Zelda est paru sur NES en 1986, il s'appelait simplement The Legend of Zelda, il n'y avait pas encore... 8000 titres après, s'il y a quand même une vingtaine de jeux, donc il faut trouver des noms. En 1987, il est suivi de Zelda 2, qui a été assez décrié parce qu'il est paru sur NES aussi, mais il avait des passages à plateforme, vue de profil, Et en général, c'est des jeux un peu à skill, du coup, c'est plus compliqué.
Mmh.
Et en 1991, c'est le premier Zelda majeur de la série. En gros, il y en a trois dont je vais vous parler aujourd'hui. Celui-ci, c'était Zelda 3, qui est paru sur Super Nintendo. Et les graphismes étaient vraiment assez impressionnants pour l'époque.
Ouais,
du coup, ça a été un jeu majeur. Ouais. Et la carte était immense et c'était le premier overworld du jeu. Donc en gros, vous voyez, Zelda, c'est des donjons de base.
Oui.
Et ben un overworld, c'est ce qui regroupe le tout. Ça veut dire qu'il y avait un lien entre chaque donjon, une carte, etc. Alors qu'avant, dans les jeux, c'était des simples donjons.
Comme un énorme plateau, quoi.
C'est ça, comme dans Minecraft ou des trucs comme ça.
Une révolution, quand même.
C'est ça, tout à fait. Donc après, il y a eu d'autres jeux en 1993, comme Link's Awakening, qui était sur Game Boy. Et en 1994 pardon, et 95, la PS1 sort, donc la Super Nintendo perd beaucoup en popularité. Du coup, pour contrer Sony, la Nintendo 64 sort. C'est celle qui a accueilli du coup Mario 64 en 1997. Mmh. Mais également, le deuxième Zelda majeur, The Legend of Zelda, The Ocarina of Time. Je sais pas si vous connaissez, je pense pas trop. Je me sens un peu seule parce que...
De non, globalement. Mais...
Oui, ouais, non, mais parce que dans l'autre équipe, il y aurait eu Alan qui savait, mais là, je me sens un peu seule. Donc, en 2000, il y a, sur la Nintendo 64, qui perd un peu de popularité, tout ça, The Legend of Zelda Majora's Mask. On en parlait tout à l'heure. C'est un peu le plus glauque de tous.
Il y a la lune qui fait flipper sur la place.
La lune qui fait peur, tout ça. Donc, après le tournant des années 2000, les joueurs de Zelda attendent un jeu plus mature et des graphismes plus adultes, à la hauteur de ceux disponibles sur PlayStation.
Mais ça avait bien évolué depuis.
La maison d'édition de Zelda prend... complètement le contre-pied, et sort The Legend of Zelda Wind Waker, qui est personnellement mon opus préféré, qui est dirigé par Eiji Aonuma et qui possède des graphismes plutôt enfantins et des donjons assez nuls, à un niveau assez bas.
En fait, c'était plus simpliste.
Oui, c'était beaucoup plus simpliste et ça a beaucoup moins plu aux joueurs, mais c'était les prémices d'un monde ouvert, d'un open world, comme dans Zelda Breath of the Wild, dont on va parler très bientôt, puisque c'est le troisième jeu majeur de la série. Donc, il y a quelques... remakes qui ont été faits aussi, comme Skyward Sword qui est sorti en 2011 sur Wii, qui a été une console majeure aussi, qui a été très populaire.
En fait, ça a été développé sur plein de.
Oui, il y a eu plein de supports différents et la Wii a été une des consoles les plus populaires de Nintendo parce que c'était vraiment une révolution pour l'époque. Et après ça, ils ont sorti la Wii U qui a fait un assez gros flop. Je sais pas si vous saviez, mais bon, elle a vachement flop quand même. Donc en 2016, la Wii U reçoit The Twilight Princess, qui est un autre opus de Zelda en HD, malgré son petit flop. Et en 2017, c'est le dernier jeu majeur dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est Zelda Breath of the Wild. Donc, il est sorti sur Wii U, mais aussi sur Switch, qui a fait un gros buzz, pour le coup, comme console, parce qu'elle est à la fois portable et du coup jouable en console de salon. Et Zelda Breath of the Wild, c'est un peu la révolution des jeux Zelda, parce qu'il y a une nouvelle structuration complète, vu que c'est un open world, donc on peut se déplacer partout où on veut, il n'y a pas d'ordre dans les donjons, c'est comme on veut. Et on doit découvrir la map avec des tours, donc c'est, tu peux explorer la map, mais tu peux faire les trucs sans découvrir la carte et la voir.
D'accord.
Et la singularité particulière de ce jeu, c'est la physique des objets. Vous savez pas ce que c'est, je pense.
Non,
si, vite fait.
Si, vite fait. Mais c'est par exemple quand vous lancez des flèches au loin et qu'elles atteignent pas votre ennemi, vous pouvez aller les récupérer par terre, ou quand vous mettez de l'électricité dans l'eau, ça va tuer les poissons du lac. Parce que l'eau, ça conduit, et donc l'électricité traverse les poissons et les tue. Et donc, en 2023, le Breath of the Wild 2 est sorti. Bon, il s'appelle Tears of the Kingdom, mais c'est un peu un Breath of the Wild 2. Et s'il y avait eu Alan, j'aurais pu ouvrir le débat et la critique sur ce jeu-là, mais vu que vous y avez probablement vraiment pas joué, je peux pas forcément en discuter avec vous. Voilà.
En tout cas, c'est un jeu majeur dans le...
Ah, Zelda, c'est
une
très grosse saga de jeux vidéo, c'est vraiment un master, quoi. Breath of the Wild, il a été vendu à 30 millions d'exemplaires et Tears of the Kingdom, 20 millions d'exemplaires en moins de 2 mois.
Ah oui, quand même.
Ouais.
Merci beaucoup, Jasmine. Allez, on va terminer cette émission par une citation. Et puis, donc, c'est une citation de François Fillon, qui, en 2012, était Premier ministre à l'Assemblée nationale.
Des autorisations qui ont été données en matière d'exploration et d'exploitation de gisements de gaz de schiste.
Voilà, un petit lapsus pour terminer cette émission.
Pas mal.
Allez, on est à la bourre. Merci l'équipe d'avoir passé cette demi-heure en notre compagnie sur RCN. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec l'autre équipe. Bien sûr, on trouvera Oti et Alan notamment. Passez une très bonne après-midi sur RCN.